Alors, on va essayer d'avancer un petit peu dans l'évangile de Luc, avant d'essayer de caractériser un peu ce qui... l'essentiel du regard de Luc sur Marie. Ou plus exactement, ce que l'évangile de Luc nous révèle du mystère de la Vierge Marie. Donc, le deuxième grand passage qui nous est révélé, c'est la visitation auprès d'Élisabeth. Qui, on va le voir là encore, constitue, comme dans le parallèle avec l'annonciation à Zacharie, une confrontation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et je crois qu'il ne faut pas simplement dire qu'Élisabeth symbolise l'ancienne alliance et que Marie symbolise la nouvelle alliance. Elle ne symbolise pas. Élisabeth, elle est formée, vous voyez, j'allais dire, elle est le fruit de l'ancienne alliance qu'elle vit le mieux qu'elle peut. Comme Zacharie. Marie est celle qui vit déjà de la nouvelle alliance. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, vers une ville de Juda. Et elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. C'est très beau parce que, si vous voyez, il y a le parallèle avec le verset 28, entrant chez elle, il dit. Et Marie devient explicitement, enfin, devient elle-même l'envoyée de Dieu auprès d'Élisabeth. Oui. De la même manière que l'ange est entré chez elle et lui a dit et l'a saluée, de la même manière, Marie entre chez Zacharie et salue Élisabeth. Oui, je dirais. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Enfin, oui, je dis, c'est le... Comme l'ange vient auprès de Marie, Marie est elle-même immédiatement envoyée auprès d'Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Et d'où m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur ?» Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Et bienheureux celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que, d'ailleurs, la tradition de l'Église ne va pas s'y tromper, hein, qui commence la salutation... Le « Je vous salue Marie », l'Ave Maria, par la parole de l'ange et qui la continue par celle d'Élisabeth. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Le Notre Père, il est comme ça dans l'Évangile. Le « Je vous salue Marie », c'est vous voyez, c'est deux morceaux, trois morceaux ajoutés. Le premier, c'est l'ange, le deuxième, c'est Élisabeth, le troisième, c'est l'Église. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi ? Parce que j'ai dit, les deux manières dont Dieu s'adresse à Marie, c'est d'une part à travers l'ange, d'autre part à travers Élisabeth. Puisqu'il est dit « Élisabeth ». Fut remplie d'Esprit Saint. Donc Élisabeth devient elle-même, vous voyez, j'allais dire, la bouche de Dieu pour Marie. Elle nous révèle, dans la charité fraternelle, quelque chose du mystère de la Vierge Marie. Et donc Marie est à la fois, on va le voir d'ailleurs, hein, quand Élisabeth dit, « Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. » Comme l'ange a manifesté la bénédiction de Dieu à l'égard de Marie, Élisabeth manifeste la bénédiction de l'humanité à l'égard de Marie. J'allais dire, comme Dieu exprime à travers l'ange son amour particulier pour Marie, Élisabeth exprime l'amour de l'humanité, enfin vous voyez, ce en quoi l'humanité est redevable à Marie. Elle est bénie entre les femmes. C'est ce qu'exprime Élisabeth. Et ce n'est pas simplement une formule de politesse, puisque c'est sous le souffle de l'Esprit Saint. On ne fait pas des formules de politesse sous le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est très beau que, en plus, Élisabeth précise encore, elle est bénie entre les femmes et bénie le fruit de ton sein. C'est-à-dire comme si c'était par l'enfant qu'elle porte, qu'elle était elle-même bénie entre les femmes. Donc j'allais dire... Le rôle de Marie n'est pas simplement un rôle à l'égard de Dieu, c'est un rôle à l'égard de l'humanité. La vocation de Marie ne la lie pas simplement à Dieu, elle n'est pas simplement celle qui permet à Dieu de venir dans le monde. Elle a un rôle particulier à l'égard de l'humanité. Et c'est très beau, elle a comme rôle, vous voyez, c'est extrêmement beau, la manière très concrète dont Élisabeth ne reçoit pas simplement Marie comme sa cousine qui vient l'aider, mais elle reçoit Marie comme celle qui apporte en elle son Seigneur. Oui, dans la charité fraternelle, c'est pas moi qui vais aider mon frère, je lui apporte le Christ, c'est complètement différent. À travers le, si vous voulez, la charité fraternelle, si elle s'incarne à travers un service réciproque, à travers une attention, si elle s'incarne à travers des gestes humains, des actes humains. La réalité de la charité fraternelle, c'est de s'apporter le Christ, c'est pas autre chose. La charité fraternelle implique de se donner soi-même, mais ça implique surtout de laisser le Christ se donner en nous, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est tout autre, c'est une condition sine qua non de se donner. Nous, on en est déjà loin, vous voyez. Déjà pour se donner nous-mêmes, on discute. Mais évidemment, et du coup, on voudrait donner Jésus sans avoir à se donner. On est comme ça, nous. On veut bien donner Jésus aux autres, si vous voulez, mais pas trop que ça nous coûte personnellement. Et même chose, si on essaye de commencer par se donner sans laisser Jésus faire les choses, on n'y arrivera jamais. La grâce n'est pas faite pour ça. Il faut laisser le Seigneur nous dire qu'on a une vieille cousine Élisabeth et nous envoyer là-bas. Et donc c'est très beau de voir qu'Élisabeth, Marie est bénie entre les femmes, non seulement parce qu'elle porte son Seigneur, parce qu'elle est celle qui apporte Dieu à l'humanité, mais parce qu'elle est celle qui vient au devant de l'humanité en portant son enfant. Oui, j'allais dire, elle est servante des hommes, elle nous apporte le Christ en se faisant elle-même la servante des hommes. Vous voyez, Marie ne donne pas son enfant comme une reine. Elle apporte son enfant comme une servante. Elle vient auprès d'Élisabeth, non pas pour lui donner des conseils du haut de sa grandeur, ni pour lui donner des cours pour savoir comment est-ce qu'il faut être vraiment mère, parce qu'elle aurait sans doute des choses à lui dire. Mais au contraire, elle vient auprès d'elle comme une servante. C'est extrêmement beau, si vous voulez. C'est dans l'humilité que Marie nous apporte son enfant. Si vous voulez, la royauté, ce que manifeste très bien, c'est ce que réalisent très mal les mauvais peintres de la Vierge Marie, et c'est ce que réalisent très bien les grands peintres de la Vierge Marie, ceux qui l'ont contemplée avant de la peindre. C'est que précisément, elle est reine comme servante, comme le Christ est roi comme serviteur. La royauté du Christ, c'est celle de la croix. C'est pas celle de la... ou c'est celle de l'entrée à Jérusalem. Et c'est celle de la gloire et de l'Apocalypse parce que c'est celle de la croix. C'est la même chose pour Marie. Mais la royauté de Marie, c'est pas quelqu'un qui est sur un trône à 80 mètres de hauteur avec une grande couronne et une immense traîne. Non, 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 c'est la petite cousine qui vient voir la vieille cousine en apportant avec elle son enfant. Et d'ailleurs, Élisabeth ne se trompe pas quand elle dit « D'où m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur ?» Alors, ça, c'est une autre chose très importante, c'est que Élisabeth perçoit très bien que ça ne lui est pas dû. Que son Seigneur vienne à elle, ça, j'allais dire, c'est normal. D'ailleurs, c'est très beau parce que je me souviens bien. Élisabeth ne dit pas « Qu'est-ce qui me vaut d'attendre cet enfant ?» Non, non, elle dit, voilà donc ce qu'a fait pour moi le Seigneur au jour où il l'a regardé pour enlever mon opprobre parmi les hommes. En fait, Élisabeth dit, voilà, Dieu n'était pas tenu de me sortir de l'opprobre, mais c'est normal qu'il le fasse. C'est vrai, l'engagement de Dieu à l'égard de la fécondité est un engagement naturel. Donc, Élisabeth, on le voit bien, considère que c'est normal. Enfin, au fond, c'est un peu miraculeux, mais c'est quand même normal. Alors que le fait que Marie vienne à elle, ça, c'est gratuit. C'est très important ça pour comprendre la médiation de Marie. La médiation de Marie, elle n'est jamais obligatoire. Mais elle est beaucoup plus importante que tout ce qui est obligatoire. Parce que la gratuité, c'est bien plus indispensable en terre chrétienne que tout ce qui est obligatoire. L'obligatoire devient même rapidement casse-pied, si ce n'est tyrannique et désespérant, si on ne commence pas par la gratuité. Si vous commencez, 1, par les commandements de Dieu, 2, par la perfection humaine, 3, par le Christ, 4, vous finissez par la Vierge Marie, vous n'y arriverez jamais. Vous ne franchirez jamais le premier stade, si vous voulez. Mais si vous commencez par la Vierge Marie, il y a du chance que le reste, ça se passe. Parce que c'est Dieu qui s'en occupera. Donc c'est très impressionnant, si vous voulez, de voir que dans la bouche d'Élisabeth est exprimée cette gratuité de la venue de Marie au milieu des hommes. Enfin, vous voyez, que de cette initiative de Marie comme servante des hommes. Ce qui montre bien que le lien entre le mystère de l'incarnation et la charité fraternelle n'est pas un lien d'obligation, c'est un lien de nécessité dans la gratuité, pas dans l'obligation. Ce que je suis obligé, c'est de respecter mon frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une obligation. Mais aimez-vous comme je vous ai aimé, ce n'est pas une obligation. C'est un commandement. Mais les commandements dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas du tout les commandements de l'Ancienne Alliance. C'est des commandements de gratuité dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas des commandements d'obligation morale. Ce n'est pas une obligation morale que d'aimer mon frère de l'amour dont Dieu l'aime. Et de l'amour dont j'aime Dieu. Ça n'est pas une obligation morale. C'est pour ça qu'on s'en dispense la plupart du temps. Parce que déjà, les obligations morales... Mais c'est une nécessité absolue dans l'ordre chrétien. Ou si vous voulez, sans ça, on ne rentre pas dans l'ère chrétienne, c'est clair. C'est ce qu'a parfaitement compris Élisabeth. Marie, je veux dire. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'ange, j'allais dire, ne laisse pas trop le choix à Marie. Hein. Il ne lui dit pas, est-ce que tu es d'accord, hein? C'est remarqué. Voici que tu concevras et tu enfanteras un fils. Il ne lui dit pas, est-ce que tu es d'accord? Alors qu'il lui dit... Ta parente aussi a conçu un enfant. Il ne lui a pas dit, tu vas aller auprès d'elle. Mais c'est très impressionnant, c'est-à-dire que, j'allais dire, le regard de Dieu, c'est très précis hein, ce que dit l'ange, le regard de Dieu sur Marie est une réponse à son attente. Marie attend le Messie, donc j'allais dire, il n'y a même pas besoin de lui demander la permission, puisque c'est ça qu'elle attend. Vous ne demandez pas la permission de donner à quelqu'un ce qu'il vous demande. C'est normal. Par contre, l'ange, le lien avec la charité fraternelle, Marie ne l'attendait pas. Ça, c'est ce qui lui est révélé. Et ça, j'allais dire, l'ange lui en laisse l'initiative, il le lui suggère. Ce que fait toujours le Christ. Dans la charité fraternelle, le respect mutuel, il nous y oblige, tout le reste, il nous le suggère. Avec autant de discrétion que l'ange, des fois plus même. Des fois moins. Heureusement, parce que sinon, des fois, on ne comprendrait rien. Nous, il est des fois obligé de nous dire, écoute, tu vas t'occuper de ton frère. Parce que sinon, on ne s'apercevrait pas qu'on a un frère, ni qu'il faut s'en occuper. Et donc, je crois que c'est très important, vous voyez, de voir que c'est dans ce sens-là que la charité fraternelle dès le mystère de l'incarnation est une surabondance. Ou si vous voulez que Marie soit mère de Dieu, on le reverra, c'est ce qui constitue en propre sa vocation. Marie est prédestinée à être mère de Dieu. Mais qu'elle soit mère de l'humanité, c'est une gratuité par rapport au fait même qu'elle est mère de Dieu. Ce n'est pas une nécessité. Il ne nous est pas dû. Jésus nous étant donné par elle, il ne nous est pas dû qu'elle soit notre mère, ni qu'elle vienne jusqu'à nous. C'est très simple. Hein. Si vous rendez la Vierge Marie obligatoire, ça fait fuir tout le monde. La Vierge Marie, ça se découvre que de manière gratuite. C'est-à-dire que celui qui ne découvre pas, qui ne se pose pas la question « Comment m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur ?» Alors, l'autre question, qui est très belle aussi, c'est le, pour le, on va voir le Magnificat qui suit. C'est ce dialogue entre les deux enfants. Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Enfin, c'est ce que les pères de l'Église aiment bien voir. Comment est-ce que, par l'intermédiaire de leur mère, les deux cousins se rencontrent? Et comment Marie est à Élisabeth ce que Jésus est à Jean-Baptiste. Et puis enfin, donc on l'a vu, la bénédiction, enfin la béatitude proclamée par Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alors ça, c'est bon, relisez toute l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Mater, qui est une explicitation théologique de cette phrase, qui est que la béatitude de Marie, c'est la béatitude de sa foi, mais c'est pas la béatitude d'une foi abstraite, c'est la béatitude d'une foi qui est liée à l'espérance. Hein, il est dit « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit ». Croire en l'accomplissement de ce qui m'a été dit, c'est ça espérer. Donc Marie est la première en qui la foi est réellement une lumière. Parce que relisez l'Ancien Testament, vous verrez qu'il n'y a pas grand monde pour qui la foi est une lumière. Parce que quand Dieu donne quelque chose, en plus il faut qu'il explique. Regardez les prophètes qui sont quand même les moins ingrats dans l'Ancien Testament. Regardez les palabres qu'il y a avec le Seigneur. Tu es obligé de leur expliquer, mais si, vas-y, tu verras. Mais non, parce que je ne peux pas parler. Alors il lui donne à Aaron, il dit, mais ça ne suffit pas. Et Jérémie qui dit, mais tu ferais mieux d'en choisir un autre. Mais non, je ne veux pas en choisir un autre, t'as qu'à y aller toi-même. Enfin, Dieu n'arrête pas d'être obligé de donner des explications à ses envoyés. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que si vous voulez, non seulement, parce qu'on n'est pas franchement dans la foi à ce qu'il aurait annoncé, en plus c'est relativement réaliste. Là, la Vierge Marie n'a besoin d'aucune explication. Mais j'allais dire, la foi, ce qui lui est révélé dans l'obscurité est immédiatement lumière pour elle. Et lumière pratique. Elle coopère à l'accomplissement de ce qu'elle croit. C'est ça la béatitude de la foi d'ailleurs. Je ne suis bienheureux dans ma foi que quand je vais jusqu'à accomplir, à laisser s'accomplir ce que je crois, à coopérer à l'accomplissement de ce que je crois. Parce que vous comprenez, si vous croyez quelque chose sans jamais coopérer à son accomplissement, c'est sinistre. Vous croyez quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec votre vie concrète. C'est très triste, ça. Ça veut dire que la foi n'est pas lumière, elle est purement obscure, donc elle est purement pénible, elle est purement pénitentielle. Vous voyez, si le seul but de la foi, c'est de croire quelque chose d'obscur, bon, ben, c'est sympathique, mais à ce moment-là, on devient luthérien. Luthérien, c'est-à-dire plus c'est absurde et plus c'est obscur et plus c'est objet de foi. Bon, le but de la foi, c'est pas de nous faire les pieds, c'est pas de nous éprouver pour nous mettre bien dans le noir, histoire de voir si on va tenir. Le but de la foi, c'est de nous permettre d'agir selon une lumière qui n'est pas la nôtre. Pour qu'on puisse, dans notre vie humaine, avec notre intelligence humaine, agir selon une lumière qui est la lumière de Dieu, s'il n'y a pas d'autre moyen que la foi. Si on est dans la vision, on n'agit plus en coopérant, puisqu'on n'a plus qu'à, vous voyez, j'allais dire, tout s'impose. Je ne coopère plus, j'obéis. Enfin, vous voyez, je n'obéis même plus, j'exécute. Mais pour que je puisse coopérer dans mon intelligence, dans ma personne, pour que je puisse personnellement coopérer à l'œuvre qui est proprement celle de Dieu, je n'ai que la foi. C'est impossible qu'il y ait autre chose d'avoir la foi. Et c'est très important, je crois, que de voir que la béatitude propre à Marie, ce qui veut dire que c'est la béatitude aussi propre à ceux qui, on le verra comme dans l'évangile de Saint Jean, veulent être ses enfants, c'est de vivre de la béatitude de la foi. C'est de ne pas se contenter de croire ce qui nous est dit, mais de mettre en œuvre ce qui correspond à ce que je crois. C'est faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, Marie, elle sait bien. Enfin, on verra dans le lien qu'entre l'évangile de Saint-Jean et l'évangile de Saint-Luc. Si Marie est bien heureuse parce qu'elle a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit, c'est normal qu'elle dise au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ça va ensemble. Son rôle est de coopérer à l'accomplissement de ce qu'elle croit. Et son rôle est de nous aider, comme des serviteurs, c'est-à-dire comme elle, à accomplir ce qui nous est dit. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la réponse de l'ange à la question de Marie. Quand Marie dit « Comment cela se fera-t-il ? » L'ange répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Ce n'est pas très pratique. Nous, on est très satisfaits par la réponse de l'ange, parce que Marie l'a sans doute été, mais ce n'est pas très pratique, si vous voulez, ça n'explique pas grand-chose. Et après, on fait quoi ? Comment on fait pour être mère de Dieu ? L'ange n'explique rien. Donc Marie a à vivre de ce qui est... Elle a à coopérer à la présence du Christ en elle, sans qu'il lui soit expliqué le moins du monde comment. Ce qui lui est dit, c'est ce qu'elle a à croire, mais il ne lui a absolument pas dit ce qu'elle a à faire. Parce que vous en remarquez dans la remarque de l'ange, l'ange ne lui dit rien de ce qu'il faut qu'elle fasse. Il lui dit ce qu'elle a à croire, mais il ne lui dit pas du tout ce qu'elle a à faire. C'est toute la coopération, hein, entre, la coopération entre l'espérance et la foi. Et espérer, c'est agir selon ce que nous croyons, sans que Dieu soit obligé de nous expliquer ce qu'il veut qu'on fasse. C'est pour ça que nous, on désespère. On attend qu'il nous explique, si vous voulez. On dit, Seigneur, écoute, tu veux faire quelque chose de moi, tu viens m'expliquer. Le jour où tu viens, tu envoies-moi un messager qui m'explique ce que je dois faire. La Vierge Marie, il ne lui a pas été expliqué ce qu'il fallait qu'elle fasse. Il lui est laissé l'initiative de le comprendre et d'y coopérer dans l'espérance. Les serviteurs de Cana, il va leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Il valait mieux d'ailleurs, parce que sinon ils n'en auraient pas eu l'initiative. Quand on sert un repas, vous voyez, on ne va pas verser des piscines d'eau dans les. On ne va pas verser 600 litres d'eau dans les piscines au milieu du repas comme ça. Le Christ nous dit ce que nous devons faire quand nous ne sommes pas capables de le deviner avec notre intelligence humaine. Parce qu'évidemment, aller verser de l'eau dans les jarres, ça c'est clair que les serviteurs n'auraient pas pu l'inventer. Parce que c'était pas stupide, mais enfin c'était aberrant. Par contre, d'avoir à être mère d'un enfant, sa Marie, elle a une intelligence qui fait qu'elle est capable de comprendre ce que ça veut dire. Très impressionnant, si vous voulez, de voir la coopération personnelle que Dieu réclame à la Vierge Marie, infiniment plus que ça n'a jamais existé jusque-là. Et c'est ça l'alliance, hein, je veux dire. Elle est là, la nouvelle alliance. Elle est dans cette manière personnelle, non seulement de servir la venue de Jésus, mais de coopérer à l'accomplissement de la venue du Christ. Et d'y coopérer dans la foi et l'espérance. Ou si vous voulez, pour préciser encore, la Vierge Marie nous révèle, et c'est en ça qu'elle est modèle pour nous de foi et d'espérance, comment si nous croyons que Jésus est présent au milieu de nous, si nous croyons à la réalité de la présence et à l'effectivité et au réalisme de la présence du Christ, alors nous devenons capables d'espérer. Plus exactement, alors nous devenons capables d'agir en espérance. Mais tant que nous ne croyons pas aussi réellement à la présence du Christ que Marie a pu le constater en elle et le croire dans sa foi, nous ne pouvons pas vivre en espérance chrétienne. La foi, l'espérance chrétienne, ne repose pas sur une foi de l'Ancien Testament. Donc elle ne repose pas simplement sur une foi en la parole, vous voyez, de Dieu, mais elle repose sur une foi en la parole de Dieu qui s'incarne. L'espérance chrétienne n'a d'une certaine manière rien à voir avec l'espérance d'Israël. L'espérance d'Israël, c'est une espérance d'attente de la promesse. L'espérance chrétienne, c'est une espérance de coopération à l'accomplissement de la manifestation de cette promesse. On n'attend pas la promesse, on attend qu'elle se manifeste. Et pour qu'elle se manifeste, on coopère à son dévoilement. La promesse, elle est là, c'est Jésus, la promesse. Donc la promesse, elle est accomplie. Ce que j'ai, c'est à coopérer à sa manifestation. C'est ça l'évangélisation. Et c'est exactement ce que va faire Marie. Marie va dans le Magnificat dévoiler celui qu'elle porte en elle. Marie ne va pas se contenter de dire ce qu'elle croit dans le Magnificat. Elle va dire comment est-ce qu'elle vit l'accomplissement de ce qu'elle croit. Oui, c'est très impressionnant quand il dit « Et bienheureuse », elle parle toujours sous le souffle de l'Esprit Saint, Élisabeth, hein, « Et bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit « Mon âme magnifie le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave. » Car voilà que désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses, et saint est son nom. Et sa miséricorde va de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur orgueilleux, il a renversé les souverains de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Donc voyez bien que Marie, ce n'est pas un credo. C'est un champ d'action de grâce. Et c'est en même temps l'expression de l'engagement de Marie à l'égard de la présence du Christ en elle. Oui, Marie, la prière de Marie ne se contente pas de rendre grâce, elle manifeste sa foi en rendant grâce pour l'amour dont elle est aimée et en s'engageant à l'égard de Dieu. Donc elle manifeste sa foi, sa charité, son espérance. Le Magnificat manifeste la foi, l'espérance et la charité de Marie. La foi en ce qu'elle croit, en celui en qui elle croit, la charité dont elle se voit comblée et à laquelle elle répond, et l'espérance dont elle vit. Évidemment, ce qui est le plus impressionnant dans la première partie du Magnificat, c'est le lien qu'il y a, parce qu'évidemment, certains bons exégètes vont vous dire que c'est une espèce de pot-pourri, vous voyez, de quelques psaumes de l'Ancien Testament mis par Luc dans la bouche de Marie. Moi, je trouve que c'est aussi intelligent que de dire que la cathédrale de Paris a été construite, vous voyez, sur les mêmes principes architecturaux que Beaubourg. Beaubourg, c'est ça, effectivement, c'est un pot pourri, vous voyez, des matériaux techniques inventés dans les 50 dernières années et agencés dans un seul bâtiment. La cathédrale de Paris, c'est pas tout à fait la même chose, il y a une certaine unité organique. Alors, moi, je veux bien qu'à la lecture du Magnificat, il n'y ait aucune unité organique, vous voyez, que ce soit une espèce de rabouti de petits bouts. Je veux bien, oui. On peut aussi dire que Van Gogh, si vous voulez, ça a été peint par petits morceaux de 5 cm sur 5 cm et qu'il a collé 20 tableaux pour faire ce qu'il a fait. Je veux bien. Mais quand on lit le Magnificat, c'est exactement l'inverse. Quand on le chante, il y a une unité interne et une harmonie qui est non seulement pas un rabouti de petits morceaux de psaume, et encore moins l'expression de quelqu'un comme Saint-Luc. Saint-Luc est beaucoup trop distingué pour avoir inventé ça. Saint-Luc, il a une langue très élégante. Il est très élégant, Saint-Luc. C'est très primaire, le Magnificat. Au grand sens du terme, si vous voulez. C'est que c'est pas du tout élaboré. C'est pas sophistiqué du tout, le Magnificat. Saint-Luc, il est un petit peu sophistiqué dans son style, enfin quand on l'étudie exégétiquement. Je ne pense pas que Saint-Luc aurait dit « il a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave ». Je ne pense pas, il aurait choisi des termes plus élégants. Alors ce qui est très impressionnant dans la première partie, c'est que simultanément Marie dit que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave, et après ça elle dit qu'elle est proclamée bienheureuse. C'est très beau, ouais, de voir comment est-ce qu'en Marie, l'humilité n'est absolument pas une fausse humilité. Vous voyez, ça ne la gêne pas de dire qu'elle sera proclamée bienheureuse. Nous, la même chose, on est habitués, voilà, le Magnificat, pas de problème, c'est magnifique et tout. Et c'est quand même énorme, si vous voulez. Voilà que désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Donc Marie est parfaitement lucide sur la bénédiction dont elle est dépositrice. Et d'une certaine manière, et c'est ça qui est extrêmement beau, Marie exprime comment est-ce que tout ce que Dieu a fait pour son peuple, elle se l'approprie. Alors, c'est toujours la même, je crois que le Saint-Père le développe dans son encyclique, c'est toujours le même mystère de la foi, c'est-à-dire que, et le même mystère de l'espérance. Tout ce que Marie croit la concerne personnellement. Tout ce que Dieu a fait pour Israël, en fait, il l'a fait pour elle. C'est à l'espérance. Nous, quand on a la foi sans l'espérance, si vous voulez, c'est quand on dit « c'est extrêmement grand Dieu, mais ça n'a rien à voir avec moi ». Ce qu'on fait souvent, si vous voulez, on est émerveillé devant la grandeur des mystères de la foi, mais on se dit qu'on est tellement nul que ça n'a rien à voir avec nous. Ça, c'est exactement contraire à l'espérance. Vous voyez, il faut voir jusqu'où Marie va. Elle considère que en fait, c'était rien que pour elle, quoi. Lisez-le bien. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse parce que le Puissant a fait pour moi des merveilles. Et saint est son nom. Ensuite, elle énumère. Sa miséricorde va de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur orgueilleux. Tout cela, Marie se l'approprie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de voir l'amour dont elle est aimée et de le prendre selon le sens le plus personnel qui soit. Ou si vous voulez, Marie exprime la conscience qu'elle a que tout ce que Dieu a fait pour l'humanité, il l'a fait pour elle, ce qui est authentiquement vrai. Tout ce que Dieu a fait pour l'humanité, tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël et tout ce que Dieu a fait pour l'Église, tout ce que le Christ a fait pour l'Église et l'humanité, me concerne directement comme enfant de Dieu. C'est directement pour moi qu'il l'a fait. Ce n'est pas métaphorique. Il ne l'a pas fait pour l'humanité dont je fais partie. Vous voyez, ça c'est encore de l'abstraction ça. Il l'a fait pour moi. Et parce qu'il l'a fait pour chacun, il l'a fait pour l'humanité, pas l'inverse. Jésus n'a pas sauvé l'humanité, il a sauvé chacun. Ça n'a rien à voir. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose, parce qu'au début, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Pour nous, Marie est la représentante de l'humanité auprès de Dieu. Il y a des bons pères de l'Église qui vont le dire, c'est pas faux. Hein. Même chose, c'est pas faux, mais c'est abstrait de dire ça. Au fond, Marie... Bon, elle n'a pas été tirée au sort, si vous voulez, mais bon, Dieu a choisi un prototype de l'humanité, et puis il lui a dit, voilà, c'est toi qui vas être responsable de l'humanité pour me répondre. Donc elle est déléguée par nous, si vous voulez. C'est la déléguée du personnel. Et au fond, ce que Marie a vécu, c'est un exemple pour ce que doit vivre l'humanité. Vous voyez, on est dans la pleine abstraction, là. Non. Marie a parfaitement compris que tout ce qui la regarde, c'est le propre de la Nouvelle Alliance, est parfaitement personnel. Dieu ne lui confie pas son enfant parce qu'il faut bien qu'il le donne à quelqu'un dans l'humanité. Dieu lui confie personnellement son enfant. Et de facto, ça l'engage, elle, à l'égard de l'humanité. C'est complètement différent. Vous voyez, il n'est pas confié à l'humanité donc à Marie. Il est confié à Marie, donc à l'humanité. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'exprime la salutation de l'ange. Il s'adresse à elle. Il ne s'adresse pas à une représentante de l'humanité. Il s'adresse à Marie, habitant Nazareth, dans un bourg de Galilée, fiancée à Joseph. Et il a une discussion personnelle avec elle. Mais c'est ça que nous, on a du mal. Hein. Le grand danger de la théologie chrétienne à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est de céder à l'universalisme abstrait, dont Hegel est le meilleur exemple. Oui, c'est-à-dire que tous ceux qui regardent Jésus, au fond, ça regarde l'homme en soi, et l'accomplissement de ça, ça s'appelle le Nouvel Âge. C'est que ce que vit Jésus, c'est l'exemple symbolique de la vocation de l'humanité. Et ce que vit Marie, c'est l'exemple en soi de la vocation de la femme. Moralité, vous avez vidé la Vierge Marie de la réalité de sa personne et le Christ de la réalité de son mystère. Vous êtes dans l'abstraction pure. Moralité, vous n'avez plus aucune espérance. Parce que l'espérance, elle n'est pas appuyée sur une foi abstraite, elle est appuyée sur une foi personnelle. Et je crois que c'est très important, hein, si vous vous souvenez bien, c'est la question du début, hein, sur le lien sur la place de la Vierge Marie dans l'économie divine et qui est-elle. Et vous verrez que plus on avance, plus on s'aperçoit que le propre de la Vierge Marie, c'est précisément de n'avoir jamais vécu la moindre opposition entre le caractère le plus personnel de sa relation à Dieu et le caractère le plus universel de sa vocation à l'égard des hommes. Et le plus universel passe par le plus personnel. Dans la personne, il n'y a pas d'opposition entre l'individu singulier et l'universalité. Oui, c'est comme quand on dit, mais Jésus, il a tout fait par exemple pour nous. Il a vécu la tentation pour nous expliquer ce qu'il fallait faire. Il a vécu la passion pour nous expliquer ce qu'il fallait faire. Il nous a tout expliqué, quoi. On se demande pourquoi il ne nous a pas fait un cours à la place, avec des illustrations. Oui, c'est ça. Et on est très marqués, nous, par ça. Hein. Repérez-vous en train d'écouter la parole de Dieu de cette manière-là. Vous cherchez la morale de l'histoire, dont le texte que vous écoutez est l'illustration. Évidemment, c'est difficile d'espérer dans ces conditions-là. Parce qu'on est dans une foi abstraite. Ça ne me concerne pas. C'est rare d'être concerné par une homélie. Vous voyez, quand elle vous parle de grandes maximes générales sur la manière de vivre sa vie chrétienne. Et alors on cherche à se configurer, si vous voulez, au grand idéal chrétien. Bon, en réalité, c'est parfaitement désespérant. Mais Dieu, lisez l'évangile, Jésus ne s'adresse pas jamais par nous sous forme de formulation d'un idéal. Hein. L'idéal évangélique, moi je me suis toujours demandé où est-ce qu'il était. C'est les béatitudes, mais c'est un peu bizarre comme type d'idéal. Parce que bienheureux ceux qui pleurent, vous m'expliquerez comment vous faites pour vous idéaliser ça. Sous forme de l'abstraction, c'est difficile. Et vous, c'est très difficile de trouver un idéal évangélique, je ne vois pas moi. Dans la tête des chrétiens, oui, mais pas dans l'évangile. Et ce qui est très beau dans les épîtres, même de Saint Paul ou de Saint Pierre ou de Saint Jean, c'est que présentement, c'est ce qui caractérise les écrits apostoliques, c'est que présentement, ils n'idéalisent pas du tout le Christ. Alors évidemment, les premiers apôtres de l'Église, ils vont commencer à idéaliser. Normal, quand on est dans une culture stoïcienne et néoplatonicienne, on idéalise. Alors, c'est le grand drame de l'idéalisation, c'est que ça tue l'espérance. Ce que, malgré beaucoup de ses méfaits, a splendidement montré Freud. En montrant que le surmoi, ça tue la personne. Le surmoi, c'est l'idéalisation. Ça tue l'espérance. Parce que si je ne suis qu'un individu qui doit incarner l'idée universelle et l'idéal, vous voyez, c'est assez joyeux. Quoi. Et je crois que c'est très impressionnant de voir ça chez Marie, de voir, vous voyez, que ce récit de Saint-Luc, c'est ça qui nous montre. Comment en elle... Il n'y a aucune distance entre le caractère le plus personnel et le plus concret de son engagement, dans son cœur humain, dans son âme humaine, dans son intelligence humaine, et la responsabilité dont elle a conscience à l'égard de chaque personne humaine. Mais d'abord à l'égard d'Élisabeth, puis à l'égard de Joseph. Elle n'est pas responsable de l'humanité avec un grand H, Marie. Il y a beaucoup de gens qui sont responsables de l'humanité, mais pas de leurs frères qui habitent à côté de chez eux. Il faudrait travailler beaucoup plus, hein, je n'ai pas le temps de le faire, mais sur le Magnificat, pour voir, un, comment est-ce qu'il nous révèle qui est Marie, et en même temps, comment il nous révèle la conscience, l'intelligence qu'elle a de sa propre vocation. En tout cas, ce qu'elle nous montre en premier lieu, c'est que l'intelligence qu'elle a de sa propre vocation, c'est d'avoir de recevoir en plénitude les promesses de Dieu, d'être l'objet propre du don, de la miséricorde de Dieu et de la libération de Dieu à l'égard du péché. Marie a parfaitement, vous voyez, j'allais dire, le Magnificat, c'est l'expression de... C'est Marie qui manifeste combien est-ce qu'elle a conscience d'être sauvée par Dieu. Sauvée par prévenance. Nous, on est sauvés du péché qu'on a accompli. Elle, elle est sauvée du péché qu'elle aurait pu commettre. C'est ça la grâce de prévenance. Et Marie a parfaitement conscience d'être sauvée par prévenance. C'est ce qui exprime, je crois, très fortement le Magnificat. On n'a pas assez avancé. Hein. On essaiera de regarder rapidement la présentation au temple. Il faudrait regarder la nativité quand même. Mais... On regardera vite la nativité parce qu'il faut faire Saint Jean. Ou alors je laisserai le père Philippe faire Saint Jean. On avancera. On fera la nativité et Jésus au temple. La présentation de Jésus au temple et puis le recouvrement au temple. Oui, c'est aussi, je crois que c'est aussi intéressant de voir comment la Vierge Marie nous fait entrer dans la vie chrétienne, parce qu'en fait, au terme, c'est ce qu'on finit de toute façon toujours par découvrir, que sa vocation propre, c'est nous faire entrer dans l'Évangile. Donc autant le faire tout de suite.